Avant de commencer cette traditionnelle cérémonie des vœux, je vais excuser une seule personne, c'est Monsieur le Préfet. Je vais aimer être parmi nous, mais il se trouve que ce soir, il y a les vœux du SDIS. Donc aussi, c'est important pour le département, et je peux comprendre que certaines personnalités des départements aient été à ces vœux plutôt que venir à la sous-agglomération. Je le comprends tout à fait. Mais je pense que bien on a la soirée, nous aurons quand même quelques élus qui passeront. Je vais nous dire un petit bonjour comme ils font d'habitude. Mais malgré cela, je vois que la salle est encore bien remplie. Je me demande même si on n'est pas encore plus nombreux que l'année dernière. On rejoint qu'il y a quelques personnes. Moi, ça m'a dit bientôt, on va aller vers. Il va falloir que la pêche a fait des nouveaux bâtiments, et je ne sais pas s'il va pas falloir fusionner les salles bientôt. Donc, c'est vraiment un plaisir en tout cas de voir cette salle remplie pour cette cérémonie des vœux. Vous savez que j'y suis très sensible à cette cérémonie. Pour moi, elle est plus importante ou aussi importante que l'Assemblée générale. Parce que j'ai coutume de dire pour les vœux, on m'invite que les amis. Je n'ai pas l'habitude de présenter les vœux à des gens qui ne m'intéressent pas. Je n'ai pas la langue de voix, je ne la pratique pas. Donc, ce soir, on est tous des amis. Je vais vous représenter, je ne vais pas faire le tour parce que je vais l'oublier, mon administration vient représenter nos élus, Louisou qui m'a promis de venir et qui est là. Depuis le temps qu'il promet de venir à la fédération de chasse, il me faisait un peu d'arlésienne, là maintenant je ne peux pas dire autant. Comme il est au tournant, je suis présent. Pierre Martel, nouveau président de la chambre d'agriculture, son prédécesseur, et aussi régional. La DDCSPP, quand même, le service vétérinaire, on ne va pas les oublier, je ne vais pas citer tout le monde, parce que là, ce soir, les associations, les sociétés de chasse, je ne sais plus les amis. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir cette salle pleine. Je vous invite tout à l'heure à regarder aussi un peu la décoration de la salle. Vous avez vu qu'on a, parmi nos administrateurs, un artiste, on le connaissait pour les taxidermies. Ce soir, vous le découvrirez pour ces peintures. Comme il avait marre de faire la taxidermie, il s'est mis à la peinture, mais ça y réussit aussi bien. C'est notre ami Jean-Pierre autour de nous. Voilà. Quand il ne chasse pas la déclasse, il peigne. Avant de commencer cette cérémonie des vœux, je voudrais quand même avoir une pensée pour un ami. Un ami qui pour rien au monde n'aurait manqué cette soirée, qui nous a quitté des propos pour moi. Au mois de mars, c'était la cheville ouvrière de notre stand au salon agricole Tarbes. Il avait mené le 29 mètres. Et fin juin, on l'accompagnait à sa dernière demeure. Voilà, je vais avoir une pensée pour Michel Guillemin, parce que vraiment c'était un excellent administrateur. Et Marie, son épouse, qui est parmi nous ce soir. Je suis très content que tu sois venu, Marie. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai aperçu, je l'ai salué. Ok. Voilà. Donc, comme je dis toujours, ce n'est pas notre assemblée générale ce soir, donc il n'y aura pas un rapport moral. Je vous rappelle simplement la date de notre assemblée générale, parce que vous êtes tous invités. Ça sera le 3 avril 2020, 18h à la CCI. Mais si je ne vais pas vous faire un rapport moral, parce que je vais essayer d'être court, il faut quand même revenir sur quelques sujets d'actualité de l'année cinégétique écoulée. Donc, comme toujours, je vais commencer par le niveau national et la fameuse réforme de la chasse qui a fait couler tant d'encre, avec la mise en place de ce fameux permis national à 205 € au lieu de 450 € qui nous coûtait auparavant. Alors, les médias ont dit que le président Macron avait fait un cadeau aux chasseurs, mais ne vous inquiétez pas. Il ne nous a pas fait un grand cadeau, c'est nous qui payons le jour. Mais ce permis à 205 € n'a pas eu l'effet escompté sur le nombre de chasseurs. Si certes, on avait 11% de permis nationaux, on est maintenant passé à 44%, bien sûr, puisque les bidépartementaux ont disparu. Un bidépartemental de Pyrénées-Gers, c'était plus de 300 €. Donc vous comprenez qu'il vaut mieux prendre un national et aller partout en France pour 205 €. Donc ça s'est fait au détriment des bidépartementaux. Mais à l'échelon national, on a eu du mal à dépasser le million de chasseurs, ce qu'on craignait. Donc on est la troisième fédération de France, mais j'ai peur qu'on ait un peu le contre-coup. Maintenant on va passer sous la barre du million. En ce qui concerne notre fédération, bien sûr, comme toutes les fédérations, on se targue tous les ans de ne pas perdre de chasseurs, même d'être tous les ans en légère hausse depuis quelques années. Bon, cette année, on sera en baisse, bien sûr, puisqu'on a perdu les 10 départementaux. Mais la chute ne sera pas aussi grande que les autres fédérations. Elle sera assez faible. Cela est peut-être dû aussi à ce qu'on a innové et qu'on a mis en place le paiement en 4 fois sans frais. 4 fois sans frais, on est la seule fédération à avoir fait ça. Donc, quand on connaît les problèmes économiques que peuvent rencontrer certains ménages au moment de la rentrée, tout ça au mois de septembre, mais payer un permis de chasse en 4 fois, c'est pas inintéressant. Donc, je crois que ça a pesé. Et puis, la politique qu'on avait mise en place les années précédentes, surtout l'année 2018, où on avait relancé des gens qui n'avaient pas validé depuis plus de 5 ans, on avait fait cadeau du permis, et on avait récupéré 350 permis comme ça. Et sur ces 350, il y en a à peu près 150 qui ont repris le permis. Donc voilà pourquoi on n'aura pas une grosse baisse d'effectifs. Un autre fait marquant et important au niveau national, c'est la création de l'Office française pour la biodiversité. Donc, c'est l'Agence française de la biodiversité qui a absorbé l'ancien Office national de la chasse et la faune sauvage, donc sous un seul et même établissement public maintenant, l'OFB. Ce qui concerne l'OFB, je pense qu'on pourra compter sur deux hauts fonctionnaires dont le pragmatisme et le bon sens sont déjà reconnus. D'une part, Pierre Dubreuil, qui devient directeur général de l'OFB et qui vient du Muséum d'histoire naturelle, et Olivier Thibault, qui était bien connu, puisque c'était le directeur général de l'Office national de la chasse et la faune sauvage, et qui prend la tête de l'ADEPS, de la direction de l'eau et de la biodiversité, dont l'OFB sera sous le contrôle de l'ADEPS et du ministère de l'Environnement. Alors, Olivier Thibault, c'est un ami avec qui j'échange souvent. Le 15 jours, on s'appelle régulièrement, parce qu'on a mené pas mal de dossiers, notamment sur le grand tétra. Pierre Dubreuil, j'ai eu la chance de le rencontrer récemment, de dîner deux soirs suivants avec lui et de partager une journée de chasse. Et on a longuement parlé, notamment de l'Observatoire des Galiformes en montagne, qui me tient à cœur. Et il m'a donné ses garanties pour la continuité. Je lui ai aussi évoqué les différents chasses et modes de chasse en nos Pyrénées, et il m'a promis de nous rendre une visite prochainement, dès qu'il sera en place, donc depuis le 1er janvier. Si j'ajoute à cela la nomination de Sébastien Lecornu, ancien ministre de l'écologie, et devenu conseiller chasse et ruralité du président Macron, je vais dire que la chasse française est dans de bonnes mains à l'échelon national. Je suis assez optimiste et vous verrez que j'ai des raisons de l'être. Quel sera-t-il au niveau départemental, cette OFB ? Je ne vais pas revenir, vous connaissiez tous mes relations avec l'ancien Office national de la chasse et la faune sauvage et son représentant, un trait tiré. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette salle mon ami Peyo Landaburu, je l'ai vu, où il est, là au fond, qui va donc devenir le responsable départemental de l'OFB, et son adjoint, M. Bayeux Cédric, qui est avec lui en tenue. Voilà. Donc, il y a longtemps qu'on n'a pas vu le service ici. Mais c'est un grand plaisir, parce qu'avec Bruno, Landaburu, c'est une vieille histoire d'amitié, de chasse, de passion, de partage, de chine courante. Et je pense que cette amitié, quand même, nous permettra d'avoir de bonnes relations, des relations cordiales, objectives, et que l'on arrivera à mettre en commun nos compétences et à les mutualiser au service de cette biodiversité qui nous est chère, que tout le monde, à laquelle tout le monde veut participer. J'oublie pas cependant, Peyo, que l'OFB aura aussi une mission régalienne, ce qui souvent a été la cause de nos discords. Et encore récemment, quand je vois quand même que la garderie au mois de novembre m'interrompt une battue au sanglier alors qu'il y avait problème chez un agriculteur où il y avait 60 hectares avec plus de 60 sangliers dedans. Que le président local s'occupe, organise cette battue, fait venir du monde, fait venir des chiens, et qu'en pleine battue à 9h30, l'ONCFS intervient et interrompt la battue alors que les sangliers sortaient partout, comme je dis à M. le préfet, je ne peux pas l'accepter.
où on veut passer mettre des sangliers, on nous amène un noyer. Ou pas. Donc je n'accepterai pas qu'on perturbe des battues au sanglier. Ça, je ne l'accepterai jamais. C'est le message que je te passe, et on aura l'occasion d'en parler. On peut faire la police et la chasse différemment. Également, dans cette réforme de la chasse, la délégation des plans de chasse aux fédérations. Gérard, tu vas plus avoir de travail.
C'est ce qu'on va dire.
Et on va te voir, c'est ce qu'on peut passer. Et on va soulager l'administration de cette contrainte. Ah, ici, la maison. Voilà un peu les grands dossiers nationaux. Dossiers régionaux. Notre maison, la Fédération régionale d'Occitanie, pilotée de main de maître par notre ami le président du GR Serge Casteran, et ses deux directeurs, Karine Saint-Hilaire et Laurent Courbois, a toujours un peu de mal à trouver sa vitesse de croisière. Certains présidents continuent à traîner des pieds. Mais je suis optimiste en cette période de vœux. Je pense que d'ici 2022, tout va rentrer dans l'ordre. Cependant, les grands dossiers sont toujours d'actualité. Financés le plus souvent par les fonds européens, bientôt par la FNC, mais surtout financés par le Conseil régional. Les grands dossiers régionaux, donc je tiens. C'est quand même encore la région qui finance ces grands dossiers. Quelques-uns, Casser, qui est pour la sécurité à la chasse, les Miradors, Jean-Louis, le partage de l'espace avec les autres utilisateurs, la filière venaison, autre dossier Via Fauna, la grande problématique de la faune sauvage et des infrastructures routières ou autres, et puis Tempo Chasse, un vieux dossier auquel nous sommes fortement attachés dans ce département. Sujet de Tempo Chasse, c'est, je tiens à le dire, nous avons accueilli au mois de novembre sur les sociétés de Générest et du Haut-Louron un groupe de chasseurs espagnols. 11 chasseurs espagnols sont venus partager un week-end de chasse et je pense que c'est comme ça qu'on construira l'avenir de la chasse. Sachant accueillir non seulement les chasseurs français qui n'ont pas de territoire, hein, qui sont dans les métropoles ou autres, et qui n'ont pas. C'est bien beau de leur, donner un permis, de leur faire prendre un permis de chasse. Si on ne leur donne pas un terrain de jeu, ce n'est pas la peine. Mais en plus de savoir accueillir des chasseurs comme ça, des groupes bien organisés, je crois que c'est encore un pas. Surtout, Jean-Louis, toi, tu le sais, et nos voisins espagnols. Je crois qu'on a tout à gagner. Je profite de cet aparté pour remercier également toutes les sociétés qui sont à côté de la fédération quand il le faut. Cette année, on a fait la soirée Bram avec l'administration sur la société de chasse d'Arro, une très très belle soirée avec un Bram exceptionnel. On a fait la journée de la fédération à Virée de ce week-end. Générez, je les ai cités, le Haut-Louron, je les ai cités. Je n'oublie pas la société de Asque qui nous avait accueillis il y a 2 ans pour la soirée Bram. Et d'autres sociétés, voilà. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir se reposer sur ces sociétés de chasse. Voilà un peu pour la région. J'y reviendrai un peu sur la région dans un autre dossier. Les dossiers départementaux, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais pas toujours réjouissant. Tout d'abord, la Chambre d'agriculture, son nouveau président Pierre Martel, qui remplace donc Jean-Louis Cazeron. J'espère, Pierre, que j'entretiendrai avec toi les mêmes relations que j'ai entretenues avec Jean-Louis. J'en ai eu la discorde et je crois que c'est bien parti. C'est déjà rencontré et on aura un dossier important ensemble, c'est le dossier agricole. Je t'en ai parlé, je suis très sensible. Pierre Dubreuil, le président, le directeur de l'OMP aussi, qui est énormément à ce dossier agricole. C'est un dossier multipartenarial. Sur la réouverture au milieu des espaces montagnards en faveur de la petite faune en montagne, qui ne peut se mener qu'avec la Chambre d'agriculture, les communes pastorales, les sociétés de chasse locales et la Fédération. Moi, je pense qu'on aura de bonnes choses à faire ensemble. Mais on aura d'autres soucis, ce sont les dégâts de sanglier, Pierre. Parce qu'on s'est rencontrés justement, c'était pour parler des dégâts. Alors je vais parler un peu des dégâts. Ce n'est pas le meilleur sujet. Cette année, c'est plus de 400 000 euros de dégâts qu'on va payer aux agriculteurs. Un chiffre jamais atteint. Et je ne vais pas dire qu'on va mettre à mal les finances de votre fédération, mais je ne veux pas que ça se renouvelle. Si on n'a jamais présenté, en 15 ans, j'ai jamais présenté un bilan négatif, cette année-là, s'il sera négatif, dû à ses 400 000 euros. Bon, il y a des réserves, mais elles ne seront pas inépuisables. Ce dossier va nous rapprocher du monde agricole encore plus et nous aurons certainement l'occasion de débattre encore. Monsieur le préfet aussi a souhaité mettre en place un groupe de travail dont il a confié à sa directrice de cabinet, Sophie Ozat. Il y a déjà eu des réunions avec le monde agricole, tous les intervenants, la louveterie, etc., DDT, l'administration. Vous voyez que tout le monde est sensibilisé. Nous, au niveau chasse, on a fait une assemblée générale extraordinaire au mois d'octobre, uniquement pour les dégâts. À Paris, personnellement, je dirais qu'elle a accouché d'une souris. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Je vous ai dit qu'on avait deux pointures à la tête de l'OFB. La chasse au mois de mars, pour cette année, c'était quasiment impossible, si on écoute le Conseil d'État. Et voilà qu'il part que vendredi, on reçoit un mail d'Olivier Thibault, directeur de l'ADEP, qui a préparé un arrêté, un décret, pour pouvoir chasser au mois de mars. Donc j'ai tous les espoirs, et je le dis ce soir aux chasseurs, s'il y a 8 jours, je vous disais que c'était, je l'ai dit, qu'on ne chasserait pas au mois de mars, depuis vendredi soir, je ne suis pas aussi pessimiste, je suis très optimiste, et je pense que vous chasserez le sanglier au mois de mars, sans qu'on ait à le classer nuisible. Voilà, ça c'est des bonnes nouvelles. Les sangliers nous sont dépassés, ça c'est le cas de le dire. Et je ne sais pas comment on va en venir à vous. C'est un animal opportuniste, qui s'adapte à tous les milieux, qui ne souffre d'aucune prédation. Actuellement, mes différents contacts me disent qu'il y a énormément de laissutés et de marcassins. Donc moi, je suis très inquiet parce que les chasseurs ne veulent pas tirer ces petits marcassins. Je peux les comprendre, c'est pas très glorieux de tirer sur un marcassin de 3 ou 4 kilos, même 5 rayés, qui suit sa mère. Mais ce que je sais, c'est que ces marcassins, dans 3-4 mois, même avant, les mères vont les sevrer. Le sevrage va se faire en pleine période des semis. Et on va retrouver la même problématique que l'année dernière. On va avoir des gros dégâts au semis. Si vous, les chasseurs, il faut s'y mettre, il faut réguler ces petits sangliers. C'est surtout l'eau qu'il faut réguler. Les gros, ce n'est pas un problème. Mais ces petits vont nous poser d'énormes problèmes au semis. Donc moi, je pense qu'au mois de mars, il va peut-être falloir épargner les gros. Mais c'est tous ces petits qu'il va falloir éliminer. Tous, on ne les éliminera pas, mais c'est là où il va falloir mettre la pression. C'est un vœu que je formule ce soir, parce que notre fédération, il en va de son équilibre économique. Donc, on ne pourra pas supporter longtemps de payer des dégâts à cette hauteur. Il y a les fédérations, le GERS et les Landes, qui ont décidé de ne plus payer les dégâts. Ça fait du bruit. Alors, bien sûr, la loi oblige de payer les dégâts. Et quand vous n'avez plus les finances, comment vous faites ? Donc moi, avant d'en arriver à cette situation, il faut trouver la solution. Et pour moi, la solution, elle est là. Il faut baisser cette population de petits sangliers. Il y a quelques décennies, je parle en décennies, c'était pas un 700, mais c'était un sémiac, un grand spécialiste du sanglier en France à l'époque, disait qu'il chasse en décembre, bredouille en septembre. Ça veut dire que quand on dit les reproducteurs en décembre, on n'avait pas les sangliers au mois de septembre. Je vous garantis que cette théorie, elle est périmée. Elle n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il faut tirer toute l'année. Voilà. Donc, il va falloir, bien sûr, préserver les reproducteurs, parce que c'est votre plaisir d'aller à la chasse. Mais il faut surtout baisser la population par la base, par ces petits. Voilà le vœu que j'ai mis ce soir pour le sanglier et l'avenir de cette chasse. Ne vous inquiétez pas, il en restera au mois d'août et au mois de juin s'il faut, pour chasser. Mais, il y a un autre sujet sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la problématique de l'exploitation forestière et des coupes à blanc. Aujourd'hui, on exploite les bois, on fait des grandes coupes à blanc, on ne laisse rien, on rase. Par contre, on laisse tout le petit bois, tous les branchages sur place. 2-3 ans après, c'est des ronciers impénétrables. Ils font des hectares et des hectares. La seule faune sauvage qui peut rentrer dans ces ronciers, ce sont les sangliers. Et on n'est pas capable de les en déloger. parce qu'il y a ici des chasseurs de sangliers et des chiens. Quand vos chiens rentrent dans ces rossiers, ils se font découdre par les sangliers. Donc là, et je ne sais pas comment on pourra agir, je me tourne un peu vers tout le monde, vers l'administration, vers la Chambre d'agriculture, vers les élus. Je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure de cette problématique de l'exploitation forestière et demander aux exploitants forestiers un peu de nettoyer les chantiers. Parce que ça ne pourra pas durer. On est en train de créer des 5 étoiles au sanglier, en plus des étendues de maïs, même s'il y avait la nouvelle politique agricole, les étendues de maïs sont bien moins importantes, on a retrouvé de la céréale à paille qui est favorable au petit gibier. Je vous garantis que si la problématique de s'évacuer dans les bois, et je pense que tu me contrarieras. Hein? C'est impossible. Donc il va falloir qu'on y trouve une solution. Je ne sais pas, il faut se mettre autour d'une table. C'est peut-être à l'administration de provoquer, mais c'est un vœu que je demande. Pour trouver cette solution à l'exploitation forestière. Donc pour moi, il est urgent de revoir le cahier des charges de l'exploitation forestière. Petit volet sanitaire pour notre département, RAS, cette année. La pestivirose de l'isard qui nous a inquiétés pendant quelques années, je pense que c'est une pathologie du passé et nos populations se sont bien reconstituées. Au niveau national, l'actualité a été plus dense, avec la peste porcine africaine qui semble être maîtrisée pour le plus grand bonheur des éleveurs de porcs en France aujourd'hui. Tant mieux pour eux, parce qu'ils ont connu assez de crises. Tant mieux si la peste porcine africaine peut leur apporter quelque chose. Puisqu'on sait qu'il y a aujourd'hui en Asie, en Chine, la moitié du cheptel de la Chine a été exterminée, etc. Donc, une vente vers ces pays. Par contre, on a reçu ces jours-ci, je lis vos mails quand même, Christine. J'ai vu qu'il y avait une recrudescence un peu de peste porcine en Pologne, qui vient vers l'ouest, et la Sardaigne. C'est l'Italie, vous allez me dire. La Corse n'est pas si loin. Mais quand ça nous arrive, la Corse est finie. Hein. S'il y a un peu de peste porcine africaine en Corse, ça sera peut-être pas la phrase. Mais parce que j'ai du mal quand même à voir la limite. La grippe aviaire aussi, vous nous avez dit, Christine. À nouveau des épisodes de la grippe aviaire, toujours chez ces Polonais, avec hautement pathogène, H5N8. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un épervier qui en a fait les frais. Il avait dû aller manger quelques canards en Pologne, là, et contaminé. Donc soyons vigilants sur ces sujets. Par contre, il y a un autre dossier qui m'inquiète davantage. C'est la recrudescence de maladies d'Ojeski ces derniers temps, puisqu'on a eu de la mortalité sur des chiens de chasse, tant en Dordogne que dans la Haute-Garonne. La Haute-Garonne, c'est à côté. Ça veut dire qu'on a du virus de la maladie d'Ojeski qui circule sur la population de sangliers. Aucun danger pour l'homme, uniquement un problème économique pour les élevages porcins. Par contre, chez le chien, ça s'appelle un pseudorage. Il faut savoir qu'un chien qui est contaminé par le virus de la maladie d'Ojeski meurt sous 8 ans, dans des souffrances affreuses. Et c'est souvent l'euthanasie, il s'automutile. Et il n'y a aucun traitement. Donc j'informe les chasseurs sangliers que peut-être il va falloir laisser mordre un peu moins les chiens sur les sangliers morts. Voilà comment ils se contaminent. Mais en Haute-Garonne, il y a eu la mortalité, il y a eu la mortalité en Dordogne, il y a plus d'autres qui doivent nous échapper. Donc là, c'est pas très loin de chez nous. Avant d'aborder le dernier point, le grand tétras, je vais le garder pour la fin. Un petit bilan sur nos migrateurs. Caille des blés, une excellente année. Mais je pense que c'est dû surtout au changement de politique agricole, comme je viens de le dire, avec le développement des céréales à la paille au détriment du maïs. Mais cette année, je suis un peu inquiet parce que vu l'automne pluvieux qu'il a fait, les agriculteurs n'ont pas pu ensemencer et labourer comme ils ont voulu. Il y a beaucoup de terres qui étaient en céréales qui vont se retrouver à nouveau en maïs, je pense. Hein. Je me tourne vers les spécialistes, mais je ne vois pas la vérité. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'on avait retrouvé au niveau agricole, on avait vraiment retrouvé des biotopes favorables au petit gibier et c'était bon pour tout le monde. La VECAS, très bonne année, je dirais. Comme on a une migration, les bécassiers qui sont dans la salle, je crois, n'ont pas à se plaindre. Par contre, je ne vais pas dire autant pour les palombes. Je vais le texto de Christian Puyot qui se désespère. Il n'en a tué que 7, le pauvre Stanley. Heureusement qu'il avait dans la race. Donc, nous n'avons pas l'hivernage, toujours dû aux conditions climatiques. Il a fait mauvais, les maïs se sont ramassés tard un peu partout en France. Et dans les palombes, elles sont parfois, elles s'arrêtent là où il y a à manger. Alors, Tarn et Garonne, Lot-et-Garonne, ils ont de la palombe, elles sont là. Et toutes ces palombes en hivernage qu'on avait nous ne les avons pas cette année. Et nous perdrons quelques permis, puisqu'on avait quand même quelques haïtiens qui n'hésitaient pas à reprendre le permis au mois de janvier ou février. Bon, c'est comme ça. Il nous manquera ces permis, voilà. Pas la rouille, mais pas inquiet. Bon. Enfin, le grand tétra. Ah, vous ne pouvez pas passer la soirée sans parler de lui. Alors, on s'est félicité l'an dernier quand on nous a annoncé la gestion adaptative pour certaines espèces, certes, et notamment le grand tétra. On s'est dit, c'est super, il y a 20 ans dans les Hautes-Pyrénées qu'on pratique la gestion adaptative. C'est bon, enfin le ministère nous reconnaît, tout va bien se passer. Tous les voyants cette année, en 2019, étaient ouverts. Tous les voyants, l'indice de reproduction, l'indice d'abondance, on n'avait jamais connu ça, un indice de repos exceptionnel, 1,5. Alors que l'an dernier, en 2018, il était catastrophique, à 0,6. Tous les voyants étaient ouverts pour qu'on puisse, sans une question et conformément à la stratégie nationale en faveur du grand tétra, prélever quelques oiseaux. Et voilà que la ministre Vargon, d'autorité, décide d'un plan de prélèvement à zéro pour les Pyrénées. Donc, vous vous doutez que ça a fumé dans la chaumière ici. Ça a fumé dans la chaumière et. Enfin, c'est au niveau national, mais on était un peu seuls à se battre avec nos amis ariégeois. Heureusement, et je tiens à la remercier, dans ses services, monsieur le préfet Blondel a pris conscience de cette hérésie. Parce que j'en avais longuement discuté avec lui, il a vu notre colère, il nous a écoutés, il a fait remonter l'information avec ses services au ministère, et à force de discussion, etc., on a réussi à avoir un plan de prélèvement de 10 oiseaux. Et on en a prélevé 6, pour dire, en chassant sur les 4 semaines, 9 jours. Donc voilà, la paix était acquise. Mais ça prouve un peu l'objectivité de ces gens-là au ministère et leurs compétences. Mais vous doutez bien aussi que l'arrêté de monsieur le préfet, puisqu'il y avait des oiseaux autorisés, l'an dernier, il n'y a pas eu de souci. Hein. Pas de prélèvement zéro, il n'y a pas eu de contentieux. Nos amis environnementalistes sont montés au créneau pour attaquer l'arrêté de monsieur le préfet devant le tribunal administratif de Pau. Donc, comme chaque année, Gérard Duclos, dans la hâte et la précipitation, a dû préparer une mémoire avec les techniciens de la fédération, mais un excellent mémoire tu as fait, Ferrand. Un excellent mémoire, on peut dire à l'avocat et autres, puisque le résultat, on le connaît, pour la deuxième année, puisqu'en 2017 aussi, on avait gagné, le juge des référés a débouté les associations environnementalistes. Et nous avons donc pu continuer à chasser le grand tétra. Pour nous, ça a été un grand plaisir, c'était quand même la deuxième année où on gagnait. Au niveau national, ils se sont fait les gorges chaudes, quand même, cette victoire. Parce que des victoires comme ça au tribunal administratif, sur des espèces aussi sensibles, on ne les gagne pas tous les jours. Donc, Gérard, je tiens uniquement à te féliciter pour ce fabuleux mémoire d'Exide Maître Lagier, qui avait été très, très bien préparé. On avait mis le papier, on a su pénaliser aussi nos chasseurs, puisqu'il y a un secteur qui n'a pas chassé, pour te le donner. C'est peut-être ça qui a montré au juge aussi notre bonne foi. Voilà, on n'a pas été des jusqu'au boutistes. Ça prouve que le travail qu'on mène pour cette espèce, tout l'investissement qu'on fait humain, financier, matériel pour cette espèce a été reconnu. Donc moi, je peux vous dire, j'invite tous ces environnementalistes là, de tout genre, à vite retrouver la raison et à prendre le bédouille, comme on dit ici, pour venir travailler à nos côtés en faveur de ces espèces emblématiques de nos Pyrénées, que sont ces galliformes de montagne. Et surtout, je leur conseille d'oublier leur jusqu'au boutiste. Puisque nous parlons des galliformes, je me dois d'adresser quelques remerciements ce soir. Tout d'abord à Jean-Bernard Saint-Pastous, notre député. Je l'ai sollicité au mois de mars, d'avril, pour avoir un rendez-vous au ministère, chez Vargo. Il l'a obtenu, il m'a accompagné, et on a pu aller défendre un peu la cause du grand tétras, présenter les travaux qu'on faisait dans les Hautes-Pyrénées en faveur de cette espèce. J'ai pu essayer de convaincre. Ça, apparemment, ça, je n'ai pas dû être très convaincant, puisqu'elle a mis quand même un plan de prélèvement à zéro d'entrée. Mais après, j'ai su la convaincre, quand même. Parce que je suis monté au créneau en promettant. Il n'y a pas que des gilets jaunes aujourd'hui. Il y a des gilets oranges aussi à la chasse. Comme j'ai dit, la station de la Mongie est vite bloquée. On rompait à Campagne, on rompait à Varège. Il a fallu un peu sortir les coups. Il n'y a pas eu que ça, mais bon. Donc je tiens à remercier Jean-Bernard Saint-Pastous pour l'ensemble de nos élus et nos parlementaires. Toi, Jean-Louis, aussi, je tiens à te remercier sincèrement. L'an dernier, j'avais fait part de mon mécontentement dans cette salle, dans ces vœux. En tant que président national de l'Observatoire Égalifort-Montagne, j'avais jamais été reçu, la seule région où je n'avais pas été reçu pour présenter notre observatoire lors de soutien. Dès le mois de février, nous avons eu le rendez-vous, nous avons eu une réunion à laquelle tu as assisté, Jean-Louis. Et aujourd'hui, je ne peux que m'en féliciter, puisque le conseil régional vient de voter une subvention à hauteur de 50% d'un projet pour la biodiversité.
C'est la reconnaissance que les chasseurs et les agriculteurs sont de grands environnementalistes.
Donc, je te l'ai dit au téléphone, je t'ai remercié, je t'ai demandé de remercier notre président, je tiens à remercier tous les conseillers régionaux, de quelque tendance qu'ils soient, pour ce soutien. Donc, je te demande particulièrement de représenter mes remerciements à Carole Delga. Voilà, comme quoi les choses peuvent évoluer quand il y a la bonne volonté. Je vais aussi remercier l'Adréal Occitanie, parce que sur ce même dossier où la région s'est engagée à 50%, l'Adréal s'est engagée à 25%. Donc vous voyez que c'est pas moi, mais c'est vrai que l'Adréal Occitanie a toujours soutenu l'Observatoire des Galiformes. Et j'en profite pour remercier tous les élus, que ce soit des maires, que ce soit des conseillers départementaux, que ce soit des conseillers régionaux, que ce soit les députés ou les sénateurs, parce que qui travaillent à nos côtés, auprès desquels je trouve toujours une écoute favorable. Voilà, je fais un peu le tour de l'actualité cynégétique rapidement. J'ai évoqué quelques dossiers, parce qu'il faut le faire. Mais ce soir, j'avais pas de piment à mettre. Certains seront déçus. Avant de formuler les vœux, puisque c'est quand même la soirée des vœux, à mon nom et au nom du conseil d'administration et du personnel, je tiens surtout à remercier justement ces administrateurs et le personnel de cette maison pour leur engagement, leur dévouement, leur fidélité à mes côtés. Je les remercie très chaleureusement. Je vous adresse donc à mon nom, au nom du conseil d'administration et du personnel, nos voeux les plus chaleureux de réussite dans vos projets, de bonheur, mais surtout de santé. Car je pense que la santé, c'est la clé du bonheur et de la réussite. Pour les candidats aux futures échéances électorales, je vous souhaite le meilleur. Pour les autres, que notre collaboration continue et dure. Je dirais, pas toujours d'accord, mais toujours raison gardée. Mais ce que je vous souhaite surtout, c'est de se retrouver tous, ici, aussi nombreux, dans un an, pour les vœux de 2021. Merci.